12h30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1. Ma mission, vous la connaissez. Chaque jour, vous montrez qu'il y a des hommes et des femmes en France qui font bouger les lignes et que c'est grâce à vous que la société change et évolue. Gros plan aujourd'hui sur une préoccupation commune, l'isolation. Le gouvernement veut nous donner désormais un coup de pouce à tous ceux qui rénovent, notamment les particuliers. Et on est allé trouver ici, à La France qui bouge, des solutions made in France, bien sûr. Elle fête ses 25 ans cette année. Elle est devenue leader de la vente de lingerie à domicile en France. Charlotte, sans le E, et l'entreprise qui va bien, merci. Et puis un pansement qui détecte les infections, c'est possible grâce à Spinali Design. C'est la solution aujourd'hui sélectionnée au Trophée de l'Avenir, catégorie santé, bien sûr. C'est ça, La France qui bouge. Et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
3921, vous connaissez évidemment le numéro du standard, celui qu'il vous faut composer dès maintenant pour être tout à l'heure en direct avec nous et avec nos invités. Venez nous dire, tiens par exemple, si vous envisagez, Anissa, grâce au plan que le gouvernement veut mettre en place, d'effectuer des travaux pour améliorer ce qu'on appelle la performance énergétique de votre logement.
Oui, ça peut faire partie des bonnes résolutions de ce début d'année, faire des économies, améliorer l'isolation. Venez nous le dire au 3921, c'est le standard d'Europe 1 et sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Alors, mieux vous isoler, changer vos fenêtres, refaire le toit, bref, vous protéger du froid. Nos invités travaillent sur le sujet, vous allez le voir depuis longtemps, pour les accueillir comme chaque jour à mes côtés. Elisabeth Assayag, bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Et notre coach aujourd'hui, c'est Thomas Hurier, fondateur des Jeans 1083. Salut Thomas.
Bonjour.
Quand il s'agit d'entreprendre des travaux pour mettre de la laine de verre, repenser les murs qui sont parfois, c'est vrai, des passoires énergétiques ou thermiques, ou mettre du double vitrage, on réfléchit parce que c'est vrai que c'est un budget et surtout, on ne sait pas toujours à quelle porte aller frapper. Bonjour Frédéric Huntsman.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur d'EFI, E2FY, qui en 10 ans, on peut le dire, est devenu leader en Europe de ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. Comme souvent, j'ai envie de dire, l'aventure commence par une petite histoire personnelle. Je crois qu'en 2008, c'est vos parents qui cherchent à changer leur chaudière.
Une vieille chaudière, exactement. Moi, à l'époque, je travaillais déjà dans le secteur de la rénovation énergétique. Oui. Et de manière assez naturelle, ils me posent la question, voilà, qu'est-ce qu'on doit faire? Changer la chaudière, mettre une pompe à chaleur sur la nappe phréatique de la Marne qui est juste en dessous. Voilà. Et je me rends compte à ce moment-là que je ne sais pas leur répondre. Je leur dis de rentrer en contact avec un chauffagiste qui a changé la chaudière. Et la chaudière a mis très longtemps en fait, à condenser avec des problèmes techniques de mise en œuvre. Et j'en ai gardé quelque part la conviction que c'est compliqué, que c'est difficile pour un particulier qui veut faire des travaux, qui veut faire des économies ou qui veut gagner en confort, de savoir quoi faire, avec qui le faire et comment le financer.
Oui, quand on est un particulier, c'est compliqué finalement de savoir quels sont les bons prix, quels sont les bons travaux à faire, à qui s'adresser. C'est vraiment ça la difficulté principale.
Il y en a plusieurs, il y en a beaucoup, un peu trop. Et notre objectif, c'est d'essayer de les simplifier. Mais il y a un premier choix qui est quoi faire, effectivement, de l'isolation, changer ses équipements de chauffage. Et donc là-dessus, il y a des simulateurs qu'on peut utiliser sur Internet. Et nous, on en fournit certains sur la société Quelle Énergie, par exemple. Et puis après, il y a vers quelle entreprise se tourner. Il y a un problème de confiance dans le monde du bâtiment. Et puis après, comment financer ces travaux, qui est la troisième question.
Et alors, c'est ce qui va vous donner, au départ, l'idée, finalement, de devenir une sorte d'interlocuteur privilégié ?
Un tiers de confiance, un accompagnateur, un coach énergétique, on peut l'appeler de différentes manières.
Alors, qu'est-ce que vous faites pour nous accompagner si on a envie, demain, de changer de système d'isolation dans la maison et qu'on ne sait pas par où commencer ?
Alors, il y a plusieurs choses qu'il faut considérer. Il y a le choix des travaux. Dans l'isolation, vous avez l'isolation des combles perdus ou des combles aménagés. Quand elles sont perdues, quand le grenier n'est pas utilisé, en fin de compte, c'est une opération qui est très simple à mettre en œuvre, comme l'isolation des planchers bas. Donc là, on parle des caves, des sous-sols, des vides sanitaires aussi, qui, quand ils ne sont pas isolés, en fait, le sol est froid. On sent que c'est froid. Et l'isolation est assez simple parce que là aussi, il suffit de venir rapporter un isolant sur le plafond de la cave.
Vous aidez les particuliers à identifier les travaux, les aides. Vous faites aussi de l'avance de trésorerie. L'idée, finalement, c'est que le particulier, ça ne lui coûte pas grand-chose ou en tout cas que ça lui coûte un euro.
Voilà. Pour les plus modestes, voilà, c'est des offres qui sont limitées à un plafond de revenus. Bon, on parle un quart de la population française, donc ça fait beaucoup de monde qui est accessible. Et pour les ménages voilà, qui sont modestes, on va venir quelque part faire l'avance de trésorerie sur les travaux qui doivent être réalisés, de manière à ce qu'ils ne payent qu'un euro symbolique. Et nous assurons d'une part le financement et d'autre part la qualité, et c'est très important, des travaux qui sont réalisés. Oui, parce que c'est une des problématiques, y compris des ménages les plus modestes, voilà, qui parfois sont victimes d'abus. Et donc dans ce cas-là, nous, on vient assurer le financement et la qualité de ce qui est réalisé.
Elisabeth, faire des travaux, réduire la facture d'énergie, c'est vrai que c'est une des principales motivations des Français.
Hein. Oui, d'après l'ADEME, la réduction de la facture énergétique, c'est le deuxième facteur de motivation. L'ADEME, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Alors, 5 millions de ménages ont mené des travaux entre 2014 et 2016, toujours selon l'ADEME, avec un coût moyen de 11 750 euros. Et effectivement, la principale motivation des ménages, eh bien, c'est le confort offert hein, grâce à ces travaux de rénovation. C'est pour avoir plus chaud pendant l'hiver, qu'il fasse plus frais pendant l'été, mais aussi pour réguler le taux d'humidité dans le logement ou simplement pour l'embellir, pour se sentir mieux.
Et dites-moi, on est motivé, mais on ne le fait pas ou en tout cas pas souvent.
Mais oui, même si 92% des Français se sentent concernés, ils sont encore trop nombreux à ne pas entreprendre ces travaux. D'abord, pour 89% d'entre nous, c'est trop cher de rénover son logement. C'est pour ça que vous êtes là et qu'on va voir tous les acteurs aujourd'hui, enfin certains. Mais c'est trop cher, mais ça, c'est notre perception. Parce qu'on peut trouver des aides, on a des tas de solutions. Pour 63% des Français, les démarches sont trop compliquées. Et pour 74% d'entre nous, c'est trop angoissant de rénover son logement.
C'est aussi ce que vous constatez quand on vient vous voir.
Exactement, et d'où la réflexion qui a été la nôtre d'apporter des solutions à ces freins, de manière à rendre les travaux moins chers, pas la récupération des aides et subventions. En prenant en charge au maximum ces démarches à la place des particuliers, quelque part, parce que là aussi, le particulier est un peu perdu hein, dans les formulaires, les différentes agences, etc. Et puis, en allant jusqu'à la fourniture des travaux à 1 euro dans l'isolation et bientôt dans le chauffage.
Notre coach, Thomas.
Oui, j'avais une question relative au foyer modeste. En fait, quand on n'a pas trop d'argent, généralement, on n'est pas propriétaire, on est locataire. Et ces travaux d'isolation, ils reviennent plutôt au propriétaire. Et donc, comment on fait quand on n'a pas d'argent et que du coup, on n'est pas propriétaire pour payer ou faire payer ces travaux qui nous feraient faire des économies, mais dont on n'est pas finalement le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage plutôt.
Alors c'est une excellente question. Nous, tous ces travaux à 1 euro, ça s'appelle le pacte énergie-solidarité. Voilà, on les
c'est vous qui êtes à l'origine hein, de
c'est
ce pacte énergie-solidarité.
Voilà, depuis 2012, en fait, on travaille sur des solutions pour les ménages les plus modestes. Et on a ouvert toutes ces solutions aux propriétaires, mais également aux locataires. Par l'isolation des combles perdus ou des planchers bas, c'est des opérations qui sont rapides et simples à mettre en œuvre. Voilà. Et donc, du coup, plutôt que d'essayer de convaincre un propriétaire de faire des travaux pour un ménage très modeste, mais avec des questions de quel intérêt j'y ai, moi, en tant que propriétaire, etc. Et donc, en fait, ça ne se fait pas. Nous, on a pris le problème différemment. On a dit, ben, en fait, on va s'intéresser aux conditions de ressources des ménages qui occupent les logements, qu'ils soient propriétaires ou locataires. Et voilà, si vous êtes dans la catégorie de revenus les plus basses, à ce moment-là, c'est un euro pour vous, que vous soyez propriétaire ou locataire, encore une fois, de votre logement.
Et on va continuer à parler, évidemment, de cette isolation et de cette rénovation thermique avec vous et avec nos invités dans un instant sur Europe 1.
Il est 13h08.
Europe 1.
Comment une menuiserie spécialisée dans les portes d'entrée devient un spécialiste de la performance énergétique? Pour le savoir, vous restez avec nous, bien sûr, sur Europe 1.
La France bouge sur Europe 1 jusqu'à 14h. Aujourd'hui, nous découvrons les nouvelles solutions pour l'isolation de la maison. Vous pouvez réagir dès maintenant au 39-21.
On a tous essayé, évidemment, hein, Anissa, de calfeutrer le dessous de nos portes d'entrée.
Ah oui.
C'est un des endroits, évidemment, par lequel le froid entre dans nos appartements, dans nos maisons, nos pavillons. La porte, justement, c'est au départ le cœur de métier de CETI. Bonjour François Guérin.
Bonjour.
Je dis la porte parce que vous êtes directeur général de cette entreprise. Vous me confirmez qu'au départ, on est dans les années 70, c'est une menuiserie générale spécialisée dans la porte d'entrée.
Alors, menuiserie générale qui se spécialise effectivement en 86 sur la porte d'entrée. et qui va connaître un fort développement sur ce métier-là en apportant de l'innovation. Et puis une démarche dès l'origine très responsable dans son développement.
Ouais, petit à petit, vous allez grandir, vous allez travailler d'autres matières aussi. Vous allez en même temps vous intéresser justement à la performance énergétique. Comment ça vient? Quel est le déclic?
Le déclic, c'est d'abord, on s'est développé comme, et on s'est installé comme leader sur le métier de la porte d'entrée, mais on avait voulu aller plus loin en étant un acteur de la rénovation énergétique, de la performance énergétique. Et pour ça, on s'est progressivement, développé sur les métiers de l'enveloppe de l'habitat, en intégrant d'abord la fenêtre, puis le photovoltaïque et l'aérovoltaïque qui intègre photovoltaïque et ventilation. Et puis enfin, l'isolation récemment.
Oui, alors en 2011, effectivement, vous rachetez deux entreprises d'isolation. Une aussi, vous le disiez, de photovoltaïque. Ouais. Ouais. Parce que vous voulez justement pouvoir proposer à vos clients une offre globale.
Oui,
c'est ça l'idée.
C'est cette vision enfin, de contribuer en tout cas à un habitat plus responsable et de proposer des solutions qui permettent vraiment d'agir sur la performance énergétique. Et pour ça, il fallait être pas seulement sur la porte d'entrée, mais sur les composants importants qui impactent la performance, c'est-à-dire la fenêtre, l'isolation, et d'être pas seulement dans, je dirais, la réduction de la consommation, mais d'être aussi dans la production d'énergie renouvelable en intégrant les solutions photovoltaïques.
Vous êtes dans la région de Nantes. Au départ, je le disais, c'est une menuiserie. Mmh. Il y a 30-40 personnes qui travaillent. Mmh. Et puis aujourd'hui, c'est devenu un groupe important. 1300 personnes aujourd'hui, c'est
exactement,
ça?
Exactement, on est 1300 personnes.
Ça crée de l'emploi, donc?
Oui, on a créé beaucoup d'emplois. On a repris des entreprises qu'on a développées. Et on est fiers d'être un industriel en France. Nous avons 7 usines et 100% de ce que nous vendons est made in France.
Oui, avec une offre supplémentaire, évidemment, de celle dont nous parlions au départ. C'est KOOV. Alors, ça s'écrit KOOV. Racontez-moi, qu'est-ce que c'est que cette offre Figital, c'est ça? Vous dites Figital?
Alors, on a voulu créer un peu le premier réseau Figital de rénovation énergétique. Figital, c'est simplement l'association...
Physique et digital, c'est
voilà,
ça?
Voilà, de l'approche physique et digitale. Parce que souvent, on oppose le e-commerce au commerce traditionnel. Et nous, on pense que la vérité sera sûrement entre les deux. Et qu'il y aura des consommateurs qui iront capter de l'information et faire des diagnostics via le digital, parce que les outils digitaux permettent beaucoup de choses. Et puis, on a besoin de se rassurer par un lieu physique, on va voir les produits, et puis on en rencontre des spécialistes qui prennent en main nos travaux. Et donc, on essaye de monter ce premier réseau Figital, dont le nom est KOOV, K2OV.
Vous avez aussi imaginé des systèmes, on en parlait tout à l'heure, d'aérovoltaïque. Je suis sûre que ça parle à peu de gens, l'aérovoltaïque. Pourtant, je croyais, moi, que le panneau photovoltaïque avait un peu disparu en Europe.
Alors, on est un des rares industriels en France à produire du photovoltaïque. On vient d'investir sur une usine toute neuve. Mmh. On a déménagé d'un ancien bâtiment vers un nouveau bâtiment au mois d'août et on produit aujourd'hui du photovoltaïque en France. Effectivement, nous sommes les inventeurs de la solution aérovoltaïque. Alors, en deux mots, pour être très simple, un panneau photovoltaïque traditionnel transforme seulement 20% de l'énergie solaire qu'il reçoit en énergie électrique. L'idée de l'aérovoltaïque, c'est de capter le reste, parce que les 80%, c'est de la chaleur. Et cette chaleur, on essaie de la récupérer en insufflant de l'air sous le panneau.
Qui est zéro perte.
Et voilà, et on récupère 60% de ces chaleurs, ce qui fait qu'on monte le rendement à 80% et on envoie cette chaleur dans la maison pour chauffer la maison. Et ça apporte du confort.
Que dit notre coach?
Je trouve que c'est une entreprise très inspirante. Je la trouve très globale, très volontaire sur ces sujets au niveau industriel, au niveau respect de l'environnement, au niveau de l'emploi local. Par rapport aux différentes activités, finalement, vous avez toujours une approche globale, les fenêtres, l'isolant, etc. Et quand on s'intéresse aux économies d'énergie, on s'aperçoit que la production de certains isolants ou de certains matériaux que l'on pose est elle-même génératrice de consomme de l'énergie. Finalement, quels sont les isolants ou les solutions aujourd'hui que l'on pourrait acheter en tant que consommateur et qui offrent finalement le plus petit coût d'énergie consommée? Je pense par exemple à la laine de bois, au métis, qui sont des jeans recyclés. Voilà, est-ce qu'il y a aussi des développements sur ce registre-là?
On essaye dans notre réflexion d'intégrer ce qu'on appelle l'éco-conception et de faire en sorte que les matériaux utilisés aient le moins d'impact environnemental. Donc dans les isolants, on utilise via une société qu'on a reprise qui s'appelle Novivo, qui a été un peu précurseur sur ce sujet, on utilise des isolants biosourcés en ouate de cellulose ou en laine de coton recyclée. Et on travaille notamment avec le relais pour tout ce qui est recyclage de ce type de matériaux. Voilà, donc ça fait partie de toute notre démarche, y compris sur d'autres produits, on essaye d'intégrer une composante toujours de recycler dans la matière première.
Et je précise que vous avez imaginé du coup un concept store, hein. C'est un peu comme ça qu'on peut le présenter. Vous y offrez un bilan énergétique, alors aussi avec des Nantais, grâce auquel vous proposez un bilan énergétique, c'est ça,
voilà,
une entreprise
locale. Voilà, donc le concept store, en fait, c'est le lieu physique, il y a l'approche digitale par le site web, mais ils peuvent venir sur ce lieu-là, où là on montre tous les produits, on explique. Et puis on peut finaliser un devis, une approche, une réflexion, en tout cas sur le projet de rénovation énergétique. Le but, c'est de maintenant multiplier ça en France. Et bien sûr, on recherche des entrepreneurs motivés par une approche responsable de la rénovation énergétique.
Elisabeth, il y a des aides des départements aussi, c'est bien de le préciser, pour conseiller, faire des économies d'énergie.
On ne le sait pas forcément. Il y a des points d'info énergie par département. Ces espaces ont été initiés par l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, au début des années 2000. Hein, donc, ils ont été quand même très, très, très précurseurs. C'est gratuit et leur objectif, c'est d'informer, de nous informer sur l'efficacité énergétique, sur les énergies renouvelables. Ils vous donnent des conseils. Hein, ces espaces info énergie sont cofinancés par les collectivités territoriales, par les conseils régionaux. Il y a 250 espaces info-énergie qui sont répartis sur toute la France. C'est important de le savoir.
On reste ensemble, on continue à parler de l'isolation de votre maison et de la rénovation sur Europe 1.
Il est 13h17.
Europe 1.
Quand on refait sa maison, il faut bien choisir son isolant, on en parlait. Et pourquoi pas le mettre, tiens, à l'extérieur. On vous dit tout dans un instant. À tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 avec des nouvelles solutions pour l'isolation de la maison. Elles sont toutes 100% françaises. Vous les découvrez sur Europe 1 et vous pouvez réagir bien sûr et témoigner au 39-21, c'est le standard.
Pour les particuliers qui ont une maison, un pavillon, l'isolation c'est primordial. Et souvent quand les murs n'ont pas bien été pensés, c'est un réel problème. Alors une solution a été créée dans la région de Dijon. Bonjour Sylvain Bonneau.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous dirigez Miral. C'est votre père hein, qui a fondé cette société en 1987. Vous isolez uniquement, si j'ai tout bien compris, par l'extérieur, c'est-à-dire par la façade.
Tout à fait. On va isoler par l'extérieur. Hein. Donc, on a commencé il y a 30 ans en tant que simple artisan. On s'est développé et puis on a trouvé des solutions qu'on a brevetées et dont, que l'on fabrique aujourd'hui. Donc on est fabricant d'une solution un petit peu particulière. Alors, c'est de l'isolation par l'extérieur, mais plus précisément, c'est une vêture. Alors la vêture, c'est une couverture hein, avec laquelle on va habiller les murs. Et la vêture, c'est un élément qui comprend l'isolant, le système de fixation et la finition. Alors que ce soit bois, crépi ou moderne en lisse, c'est un tout en un. C'est donc un élément qui est prêt à être posé sur le mur. Donc
on va essayer
rapide,
d'imager, j'ai mes parpaings qui montent, là, mon mur qui monte, et je viens mettre la couverture par-dessus. Je choisis l'extérieur de la couverture ou
tout
pas?
Tout à fait. Oui. Alors, c'est sous forme de panneau, et le panneau comprend tous les éléments, fixation, isolant et l'aspect. Et on va positionner ce panneau-là comme un parquet sur un sol. Et bien, on va le positionner. C'est fabriqué sur mesure à la dimension de la maison, à la hauteur de la maison. Et ça a de grands avantages puisque ça permet de travailler rapidement. Et dans une seule opération, on fait tout le travail. C'est ce qu'on fabrique pour les immeubles et aussi pour les maisons. Et c'est la solution Uniso.
Alors, on n'a pas dit, mais cette solution-là, évidemment, elle résiste à la chaleur, elle résiste en gros aux amplitudes thermiques, hein, à la pluie aussi. Comment est-ce que vous avez fait pour breveter ce produit? Qu'est-ce que vous avez mis à l'intérieur pour que ça puisse finalement tenir la distance face à tous les éléments?
Vous avez bien raison, hein, puisque à partir du moment, on est en fait la barrière entre les intempéries, hein, entre l'extérieur et la maison qui doit être chaude, qui doit être protégée. Et c'est là où on est obligé de mettre en œuvre un produit hein, le plus résistant possible. Donc l'isolant, on travaille sur une nouvelle génération hein, de polyuréthane hein, qui ont une part de biosourcée. Le polyuréthane a un avantage énorme, c'est qu'il est très fin par rapport à son efficacité. Et en isolation par l'extérieur, c'est important parce qu'en seulement 8,5 cm, on apporte le niveau d'isolation recommandé. Et alors, ce qui va faire la finition, c'est un parement aluminium donc, que l'on a laqué avec des laques mâles qui matent qui donne un aspect minéral. Et alors là, on va donner l'aspect du bois, l'aspect du crépi. Donc tout ça est très condensé et va venir apporter toutes les solutions. Et évidemment, l'aluminium est parfait pour résister à tous les intempéries.
Et vous fabriquez tout ici, en France, voilà, dans la région Dijon.
À Issurtille, donc sur une ligne qui fait 100 mètres de long, sur laquelle on a investi...
Là, vous avez beaucoup investi.
Voilà, on a investi plus de 4 millions d'euros il y a 4 ans. Et donc, on propose
combien
ces produits-là.
Combien de personnes travaillent avec vous aujourd'hui?
On est 80 personnes sur l'ensemble des sociétés. On fait 22 millions de chiffres d'affaires. Et donc, on a le projet, puisque aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas répondre à tous les particuliers partout en France. Mm-hmm. Donc, on innove encore en lançant, on a condensé en fait tout notre savoir-faire de ces 30 dernières années en lançant un concept de franchise. Donc, on a l'ambition d'inventer l'artisan 2.0 qui va être la personne qui va faire les travaux avec ce super produit Uniso et puis les solutions qu'on connaît depuis 30 ans.
Oui, c'est important de parler de ces solutions, Elisabeth, parce qu'il y a de nouvelles mesures qui arrivent, qui ont été décidées par le gouvernement.
Tout à fait. Il s'agit d'un plan de 9 milliards d'euros au total en faveur du logement. Et dedans, il y a une enveloppe destinée à aider les particuliers à réaliser des travaux d'amélioration énergétique. Concrètement, ce plan s'adresse aux salariés et aux ménages les plus modestes. Donc, on estime environ à 850 000 personnes. Alors, je vous donne un exemple, une aide qui peut aller jusqu'à 20 000 euros qui est prévue pour la rénovation énergétique. Ça peut être donc pour changer ses fenêtres, son chauffage ou encore pour refaire le toit.
Que dit notre coach Thomas?
J'avais une question par rapport au polyuréthane. C'est en effet le matériau, je pense, ou un des matériaux en tout cas qui a le plus grand pouvoir isolant que l'on trouve. Ça consomme assez peu d'énergie puisque pour isoler à vie une maison, finalement, il faut l'équivalent d'un plein de voitures. Donc c'est assez peu. Par contre, que devient ce matériau en fin de vie? Est-ce qu'il existe des filières aujourd'hui pour recycler ce polyuréthane et en faire autre chose, ou en tout cas le contenir?
Sylvain Bonneau.
Alors, il existe pour l'instant peu de filières, il y en a quelques-unes, alors malheureusement pas en France, en Allemagne. Alors après, on va travailler, on a des projets justement de recherche sur des filières de recyclage de polyuréthane, mais c'est un matériau qui garde son pouvoir isolant, donc on imagine très facilement qu'il pourrait être utilisé comme sous-isolant dans le futur, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, il a encore des propriétés isolantes qui pourront être utilisées.
Qui veut réagir ou qui veut répondre peut-être ou ajouter quelque chose?
Thomas,
une autre question, pardon. Excusez-moi, monsieur
c'est
coach.
Que, du coup, si on peut le réutiliser en mode dégradé, est-ce que la part de couverture de votre matériau se détache facilement de la part isolante de votre matériau pour qu'en effet on puisse les séparer facilement et garder que la partie isolante?
Vous avez bien raison. Aujourd'hui déjà, on sépare les différents éléments, ce qui pourrait être des chutes de production. On sépare l'aluminium des dérives de fixation PVC pour isoler chaque élément et que chacun puisse être recyclé. Oui, tout à fait.
On reste ensemble, on continue à parler rénovation énergétique sur Europe 1.
Il est 13h27.
Europe 1.
Et on vous attend, 39-21. Êtes-vous prêt à vous lancer dans des travaux de rénovation? À vous de nous le dire aujourd'hui sur Europe 1. A tout de suite.
France bouge et vous découvrez aujourd'hui, grâce aux invités de Raphaël Duchemin, les nouvelles solutions pour l'isolation de la maison. Et elles sont toutes françaises, Raphaël.
Avec Thomas Hurier, le fondateur des Jeans 1083, qui est notre coach aujourd'hui, avec Elisabeth Assayek, bien sûr. Nos invités, Frédéric Hutzmann, cofondateur d'EFI, François Guérin, président du groupe CETI, et Sylvain Bonneau, président de Miral. On a vu qu'il y avait beaucoup de solutions qui s'offraient à nous. Je voudrais qu'on signale, Elisabeth, il y a des simulateurs aussi
en
ligne.
Ah mais bien sûr, vous en avez cité un tout à l'heure, vous avez le site quelleenergie.fr qui permet, grâce à un simulateur, de comprendre les aides mises à la disposition et de calculer les subventions auxquelles vous avez droit. Vous en avez d'autres, vous avez jechange.fr, calculette.energie-info.fr. Il y en a énormément, il faut choisir un qui vous convienne et qui est facile à utiliser.
Oui, le plus adapté. On a aussi quelques messages, je crois, sur Twitter.
Sur Twitter, Caroline pose une question. Elle dit « J'habite dans un logement social, nous avons des fenêtres en bois, nous chauffons les oiseaux, grosse facture, que faire ?»
Alors, qui veut répondre? Frédéric Hutzmann, François Guérin?
Le logement social, sur des fenêtres, malheureusement, on rentre dans la problématique là, du bailleur social. Et donc, c'est au bailleur de réaliser les travaux, sauf si le propriétaire veut les prendre en charge, mais ce qui est rarement le cas, parce que les fenêtres...
Le locataire, pardon.
Ouais. C'est les fenêtres qui sont des opérations qui sont relativement chères. Et voilà, donc du coup, c'est compliqué pour, dans ce cas-là. Malheureusement, il faut convaincre son propriétaire de faire les travaux.
Alors, il y a Gérard qui est à Caen, dans le Calvados, et qui nous dit « J'habite dans un petit immeuble de 6 propriétaires. Des travaux ont été votés par la copropriété. Je suis considérée comme modeste en fonction de mes revenus et les travaux vont être chers. 35 000 euros à ma charge. Que puis-je faire? Quel recours? Je suis propriétaire habitant, contrairement aux autres propriétaires. » Qui a la solution pour aider Gérard?
Alors aujourd'hui, il y a des dispositifs d'aide qui n'ont jamais existé jusque-là. Alors sans condition de ressources, on peut avoir les certificats d'économie d'énergie. Et là, s'il y a une précarité, il y a deux niveaux, mais en précarité simple, il y a des aides complémentaires. L'ANA, avec des programmes sérénité, des programmes agilité. Aujourd'hui, il y a des opérations, nous on constate, qui sont prises en charge à 80% dans certains cas. Donc ça peut être absolument énorme et ça n'a jamais existé jusque-là.
Même chose chez Victoria, qui est à Perros-Guirec, dans les Côtes d'Armor, et qui nous dit, est-ce que tout cela est aussi valable pour les immeubles collectifs? Je pense que la réponse est oui, bien sûr. François Guérin.
Pour les immeubles collectifs, la question, c'est quoi exactement? Est-ce que c'est valable?
Toutes
la
les aides dont... Oui, évidemment, tout ce dont nous venons de parler ensemble.
Chaque cas est un cas particulier, et en fonction de ses niveaux de revenus, soit tu propriétaire ou locataire. Enfin, après, il y a des aides spécifiques qui peuvent être fléchées, suivant son profil. Donc, il n'y a pas... un cas, je dirais, où on est complètement hors de toute aide. Voilà, c'est à étudier.
Il y a des aides qui sont plus importantes, évidemment, quand les revenus sont modestes. Il y a des aides aussi, malgré tout, quand on veut faire de la rénovation énergétique, parce que c'est bon pour la planète. Et là aussi, même si on est propriétaire, il peut y avoir un petit coup de pouce financier.
Oui, alors il y a deux grandes aides qu'il faut avoir en tête quand on n'est pas dans la catégorie modeste. La première, c'est le crédit d'impôt, transition énergétique, à peu près 30% de l'enveloppe de travaux qui est remboursée en crédit d'impôt. C'est aussi quelque chose qui est valable, on ne le dit pas assez, pour les ménages modestes qui reçoivent à ce moment-là un chèque. Voilà, ce n'est pas un crédit d'impôt, c'est un chèque qu'ils vont recevoir. La deuxième aide qui est accessible à tous, c'est les certificats d'économie d'énergie dont vous parliez. Donc, la valeur est supérieure quand on a un ménage modeste en termes de primes que ce qu'elle est pour un ménage qui est solvable. Mais c'est une aide qui est accessible à tous et qui peut représenter plusieurs milliers d'euros pour un chantier.
On va où justement pour savoir, pour être au courant de toutes ces aides?
Le mieux aujourd'hui, c'est Internet pour faire des simulations, parce que ça dépend de vos revenus, du nombre de personnes dans votre ménage, de là où vous habitez. Et donc sur des sites comme quelenergie.fr que vous mentionniez.
Où on sollicite l'ADEME.
Voilà. Ou alors vous sollicitez l'ADEME ou un point info espace énergie si vous souhaitez vous déplacer. De manière à faire des simulations et avoir des réponses à votre situation.
Vous êtes tous depuis longtemps installés sur ce sujet de la transition énergétique, de la rénovation, de l'isolation. Est-ce que vous sentez qu'aujourd'hui, depuis quelques années, en tout cas depuis le Grenelle de l'environnement, les choses ont véritablement commencé à bouger, François Guérin?
Alors, on sent qu'en ce moment, il y a une forte émulation entre tous les acteurs. Et je pense qu'on a passé le cap un peu de l'anarchie, où il y avait plein d'initiatives, souvent aussi pas très sérieuses. Moi, je prends l'exemple du métier qu'on connaît bien, du photovoltaïque, où il y a eu beaucoup d'acteurs qui ont vendu et posé des choses un peu n'importe comment, avec des promesses intenables. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut reprendre la main pour avoir une démarche plus responsable sur ce marché-là. Et on sent beaucoup d'initiatives dans ce sens-là. C'est un peu le sens aussi de ce qu'on fait avec Couv, c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout. Nous sommes des industriels, mais allons jusqu'au bout de la démarche et on va s'occuper de former les professionnels qui vont poser ces produits-là. On crée un centre de formation et on va aussi s'assurer que c'est bien fait, que la promesse en tout cas est tenue. Voilà, donc je pense qu'en ce moment, on passe ce niveau de maturité vers quelque chose de plus responsable, plus sérieux.
Et on a évidemment des certifications aussi chez vous. Justement, vous allez voir les artisans et vous dites c'est bon, vous pouvez y aller, celui-ci c'est sûr, on travaille avec.
Voilà, nous on vérifie la qualification des entreprises, parce qu'il y a des conditions à réaliser, enfin, tout ça, c'est un peu compliqué pour les particuliers, donc on vérifie tout en amont, de telle sorte que quand un particulier reçoit une entreprise, nous on se soit assuré du fait qu'elle pouvait bénéficier des aides, qu'elle avait les assurances et tout ce qui allait bien pour réaliser ces chantiers.
Une dernière question pour vous, Sylvain Bonneau, chez l'autre fille qui nous a appelé au 3921 et qui me dit vous n'avez pas donné le coût au mètre carré de l'isolant proposé.
Alors, le coût au mètre carré, hein, forcément, on s'adapte à l'habitat. Alors après,
on peut avoir une fourchette peut-être.
Il y a des solutions hein, où on a des solutions en kit, hein, donc en autoconstruction, qui peuvent être intéressantes. Donc on est nous sur des solutions qui vont varier de 100 à 200 euros du mètre carré. Donc, voilà, c'est à peu près l'échelle de prix dans laquelle on se situe.
C'est la réponse qu'attendait l'autre fille qui nous appelait d'Herblay. Merci à tous d'être venus nous parler rénovation énergétique aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h36.
Europe 1.
On reste ensemble, bien sûr. Elle est, depuis quelques années, déjà leader du marché de la lingerie à domicile en France. C'est Charlotte, c'est l'entreprise qui va bien. Merci.
Europe 1.
La France bouge jusqu'à 14h et tous les jours, Raphaël Duchemin, vous nous proposez de découvrir ou redécouvrir, pour ceux qui sont déjà fans de ces entreprises-là, l'entreprise qui va bien et aujourd'hui, elle s'appelle Charlotte.
Et cette entreprise, effectivement, c'est Charlotte, mais sans le E à la fin. Bonjour Véronique Garnaudier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez fondé cette entreprise de lingerie fine à domicile il y a 25 ans déjà, dites-moi.
Ça y est, c'est notre 25e année. Le temps a passé à une vitesse.
Bon anniversaire.
Merci.
Parce que, racontez-moi, comment vous avez décidé un beau jour de vous lancer dans ce secteur qui n'était pas forcément le vôtre. Et puis, pourquoi la vente à domicile?
Alors, c'est une question de rencontre, de personnes. Et puis, je pense d'ouverture vers les autres. On m'a invité à une présentation d'une société qui était suisse et qui vendait à l'époque des filtres à eau, filtres à air. J'ai détesté le produit, mais adoré le concept. Et le concept, c'était justement d'aller au contact des gens, chez les gens, et de proposer les services. Et donc, de là est partie l'idée, quoi faire avec ce système de distribution.
D'où la lingerie, parce que personne à l'époque n'était sur ce créneau-là.
Alors personne, c'était une grande surprise pour moi. Je me dis, c'est dingue, personne n'y a pensé. Et du coup, c'est l'étude de marché qui a dit qu'effectivement, il fallait un produit féminin, un produit qui se change, un produit qui valorise la femme aussi, un produit un peu sexy. Et voilà, la lingerie est apparue comme une évidence.
Une évidence. Au départ, c'est quand même beaucoup du système D aussi. C'est vous qui faites quasiment tout. Hein.
Ah oui, au début, c'est vraiment système D parce que personne ne croit en moi, évidemment. Je viens du monde de l'industrie, de la pharmacie. Donc forcément, c'est un grand pas et une grande différence. Donc personne n'y croit. Du coup, difficile d'ouvrir les portes des fournisseurs, difficile de se faire entendre. Mais avec persévérance et puis beaucoup d'enthousiasme, on finit quand même par enfoncer les portes.
Alors, vous élaborez vos collections, vous faites du Made in France. Vous travaillez beaucoup, notamment avec la fameuse dentelle de Calais.
Oui, alors effectivement, les tissus, tout ce qui est effectivement impression, les dentelles de Calais, c'est la plus belle dentelle au monde. Hein. Donc du coup, c'est des dentelles qui sont douces, qui sont sensuelles, qui permettent aussi des variétés en termes de couleurs, en termes de forme, en termes d'élasticité. Donc c'est très confort.
J'ai regardé, vous avez très vite lancé la collection homme aussi. C'était important d'avoir les deux.
Bah, deux titres, parce que les hommes portent aussi des sous-vêtements, mais aussi parce que la femme achète souvent pour l'homme. Donc c'est une manière, quand elle fait une présentation chez elle ou quand elle va dans une animation de présentation de réunion, eh bien elle peut aussi ramener un cadeau à son mari. Donc c'est une manière aussi de déculpabiliser son propre achat. Mais finalement, c'est aussi un plaisir commun.
La confection, c'est un domaine que notre coach connaît bien, Thomas.
Oui, on est assez complémentaires. Nous, on fait des jeans, donc généralement, l'un va avec l'autre. J'avais une question par rapport à votre filière de fabrication. Votre modèle économique est super innovant. Vous êtes vraiment dans la proximité, vous avez limité le nombre d'intermédiaires, vous faites peu de marketing, finalement. Donc, il y a toutes les clés pour réussir à absorber un coût de fabrication local. Je sais que vous vous approvisionnez en matières premières locales, notamment on parlait des dentelles de Calais. Au niveau de la confection, comment ça se passe? Où sont fabriquées les...
Alors effectivement, on part de la feuille blanche. C'est-à-dire qu'on conçoit vraiment nos produits. Donc on intègre nos équipes de stylistes, de modélistes. On peut prendre aussi des stylistes externes en freelance pour des fois donner un côté un peu novateur. Mais en fait, tout est conçu chez nous. Alors toutes les équipes en fait, tout ce qui crée de la valeur ajoutée est intégré. Et après, au niveau effectivement matières premières, on est très soucieux bien sûr de la qualité, etc. Après, on établit des cahiers des charges et on va donc donner de la production, mais ça, on ne l'intègre pas. Donc ça veut dire qu'on ne se limite pas dans les ateliers de production. Ça peut être très local, ça peut être très loin, ça peut être... C'est vraiment en fonction du produit, en fonction de la matière, en fonction de la technicité qu'on va demander. Et là, on va trouver donc le meilleur compromis de manière à avoir au final, un prix public qui soit à la hauteur des attentes des consommateurs.
Ouais, c'est entre 45 et 60 euros, je crois.
Voilà, la fourchette de la parure, ça peut être un peu plus en dessous, comme ça peut être un peu au-dessus, mais globalement, effectivement, une moyenne à 60 euros, c'est un très bon produit.
Donc la fabrication peut être en France et ou en Europe, Et où au Maghreb,
bassin méditerranéen,
et où en Asie.
Effectivement. Donc là, on ne s'interdit rien. Par contre, on a des équipes d'ingénieurs qualité qui sillonnent le monde entier pour justement chercher de la performance et chercher effectivement la meilleure qualité.
45 salariés, c'est ça? 3000 conseillères?
Oui, alors un peu, presque 50 aujourd'hui maintenant en interne, puisque nous avons intégré en plus du prêt-à-porter il y a quelques années, enfin il y a très peu d'années. Donc oui, une cinquantaine de personnes au siège et ensuite sur le terrain. Elles sont 3000, essentiellement des femmes, quelques hommes aujourd'hui, mais essentiellement des femmes qui justement sillonnent la France et qui proposent les collections qui changent très régulièrement.
Et j'adore cette phrase que vous citez, manifestement, qui est signée Nelson Mandela. « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». C'est une belle philosophie de la vie. Merci d'être venu la partager aujourd'hui avec nous sur Europe 1.
Il est 13h46.
Europe 1.
Un pansement connecté pour détecter les infections. Oui, ça existe et c'est français. C'est sur Europe 1 aujourd'hui. À tout de suite.
Jusqu'à 14h, la France bouge sur Europe 1 et juste avant 14h, vous nous proposez, Raphaël Duchemin avec Elisabeth Assayag, la solution du jour.
Oui, on continue évidemment à vous parler chaque jour des trophées de l'avenir d'Europe 1 et des entreprises qui sont sélectionnées. Elisabeth, aujourd'hui, vous nous présentez une entreprise qui a mis au point un pansement connecté. Il détecte les infections. Racontez-nous cette innovation.
Alors, cette start-up qui s'appelle Spinally Design a développé avec un laboratoire de l'INSERM à Strasbourg un pansement connecté capable de détecter l'apparition d'une infection, le tout via un smartphone. Et mieux encore, un certain nombre d'agents infectieux pourront être traités immédiatement par le pansement lui-même grâce à un petit agent microbien ancré dans le tissu. C'est donc une petite révolution, enfin même une grande révolution qui va changer notre utilisation du pansement en cas de plaies sur la peau, notamment sur les plaies importantes, hein, par exemple pour la surveillance d'un grand brûlé ou bien chez des malades immunodéprimés qui peuvent être sujets plus facilement à des infections. L'intérêt, c'est de ne pas avoir à ôter régulièrement le pansement pour voir ce qu'il se passe en dessous et donc de moins mobiliser aussi, disons-le, le personnel médical.
Bonjour Romain Spinally.
Bonjour.
Co-fondateur donc de cette start-up. C'est quoi la technologie? Comment est-ce que vous avez réussi à la trouver?
Alors c'est une start-up mulhousienne.
Oui.
Prioritairement, nous avons démarré dans le domaine du textile connecté avec une innovation qui a fait le tour du monde, qui est un maillot de bain connecté qui lui indiquait quand il fallait remettre de la crème solaire. Donc en travaillant sur cette technologie-là, nous sommes dans le domaine des data sciences, du data textile, faire parler le vêtement, faire parler le tissu. Donc cette première innovation nous a permis de travailler sur de l'électronique, sur de la data, également sur le changement des comportements au niveau des usagers. C'était il y a 4 ans, plus d'un milliard de personnes à travers la planète ont entendu parler de cette innovation et donc nous avons continué notre recherche et développement sur ces différents points technologiques pour arriver par la folie des rencontres, c'est souvent ça l'innovation, à ce pansement connecté qui détecte les infections.
Alors, ce pansement aujourd'hui est-il disponible?
Alors, le prototype est disponible, mais il sera disponible pour le grand public à la fin de cette année, fin 2019, pour le grand public.
Mais quand vous dites grand public, il est destiné aux hôpitaux, au corps médical ou il pourra être accessible, on pourra l'avoir à la maison?
Alors c'est l'innovation aujourd'hui qui se présente. Il y a eu il y a quelques jours le CES de Las Vegas.
Oui.
Et il y a une dynamique extrêmement forte de l'électronique grand public dans le but de faire ce qu'on appelle de la prévention. C'est-à-dire faire en sorte que les personnes soient en bonne santé le plus longtemps possible. Nous avions déjà démarré là-dessus avec le maillot de bain connecté qui indiquait qu'on remet de la crème solaire. Mmh, mmh. Mais d'une manière générale, on le voit avec l'iWatch d'Apple qui vous suit en permanence par rapport à votre électrocardiogramme. Le grand public a une appétence aujourd'hui sur les éléments de prévention.
Donc on pourra l'avoir à la maison?
On pourra l'avoir à la maison dans un premier temps avec le grand public, mais comme il y a quand même une dynamique médicale, les tests cliniques sont en cours également, mais là on est plutôt dans le domaine de l'année, puisqu'il faut travailler également sur la partie certification et également le lien entre le malade et son patient. Donc quand une technologie bouge, elle ne reste pas dans un silo, l'ensemble du monde doit bouger avec.
Et c'est un pansement qui permet aussi de faire la prévention.
Exactement.
Donc, d'avoir moins de problèmes médicaux.
C'est tout ce qui est assez intéressant avec ces nouvelles technologies en termes d'électronique, électronique grand public, c'est qu'on est beaucoup plus sur de la prévention. Alors que le médical venait soigner, venait guérir, venait s'occuper des personnes malades, le but c'est de rester le plus longtemps possible en forme et d'éviter même.
Mais avec le téléphone, donc c'est le téléphone qui entre en jeu.
Le téléphone est aujourd'hui le moyen de communication qui est utilisé en 2019 avec les particuliers, mais ce mode de communication pourra encore varier.
Le pansement envoie les informations au téléphone, c'est ça.
Exactement.
Et permet de les vulgariser, si j'ose dire.
Voilà, le téléphone étant l'outil que tout le monde a dans sa poche pour le grand public, c'est celui-ci qui va lui permettre de voir s'il y a une infection. Mais on peut imaginer après d'autres services d'appel, en termes de télémédecine ou autre.
Que dit le coach ?
Vous parlez de la montre d'Apple, l'Apple Watch ?
Oui.
Qui sert de capteur effectivement pour voir son activité cardiaque. Vous êtes en train de transformer le pansement en pansement capteur. Et donc, est-ce qu'on peut imaginer que finalement votre pansement demain on le mette partout sauf sur une plaie, finalement pour ne garder plus que la fonction capteur de votre outil, par exemple, est-ce qu'on peut envisager suivre son rythme cardiaque non plus avec une montre Apple si on n'en a pas, mais avec un pansement dont on se servirait sur la poitrine, pas pour boucher une plaie, mais juste pour suivre son activité cardiaque.
C'est très juste ce que vous dites. En fait, ce qui est intéressant au niveau de la plaie, c'est que l'organisme, quand il envoie une multitude d'informations, aujourd'hui, sous la forme de différentes protéines, sur différentes molécules chimiques, hein, au niveau de la plaie, on est capable de capter ces éléments avec de l'électronique qui a été miniaturisée et les faire parler. Il en va de l'infection, mais comme il peut en être pour les maladies cardiovasculaires et d'autres informations, y compris le stress. Si on pousse plus loin le réseau, il faut avoir un contact avec l'intérieur de l'organisme. Nous sommes en 2019, mais si on veut être un peu visionnaire, dans 5 ans, certaines personnes volontaires choisiront d'avoir ce capteur intégré dans leur organisme, même en étant en pleine santé. Il ne faut heurter personne aujourd'hui, mais ce sont des dynamiques qui sont extrêmement lancées aujourd'hui.
Beaucoup de développement à venir donc pour Spinali Design, start-up mulhousienne. Merci d'être venu nous la présenter. Merci à Thomas qui était notre coach aujourd'hui. On attend toujours vos votes hein, sur europe1.fr dans la catégorie coup de cœur, notamment c'est à vous de choisir. Et puis demain, on se retrouve, Elisabeth, et nous parlerons de la nouvelle manière de visiter les musées.